notre transition numérique, notre smart city,
le logement,
l'énergie, l'habitat,
les rôles majeurs des villes,
l'urbanisation, le développement durable,
vivre dans les villes.
Think Cities, le podcast. Retrouvez le résumé de l'actualité urbaine chaque semaine, traité par la rédaction de New Storm Cities.
Bienvenue à toutes et à tous. Bon lundi, bienvenue sur New Stank Cities, le podcast, à retrouver sur cities.newstank.fr, l'agence d'information spécialisée sur la ville, les mobilités, l'énergie, l'aménagement, l'urbanisme, la ville et tout ce qu'il y a dedans. C'est à retrouver sur cities.newstank.fr et sur l'application dédiée sur Android et puis bien évidemment iOS. Alors, sans plus attendre, le résumé et les infos marquantes de la semaine précédente, c'est sur New Stank Cities, le podcast. Tout d'abord, la loi 3DS, adoptée définitivement par l'Assemblée. Alors, nos équipes, et je salue leur travail extraordinaire, la rigueur. Eh bien, la loi 3DS, c'est un dossier, c'est un suivi article par article, titre par titre, du début jusqu'à cette adoption définitive. Donc, c'est... la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. Donc, 301 voix, elle a été définitivement adoptée au Sénat. Suite à la CMP conclusive de la semaine dernière. C'est au terme de 9 mois de discussion parlementaire. Le texte est passé de 84 articles à 270. Jacqueline Gouraud nous dit « C'est le signe que nous partageons une même ambition, se saisir de cette occasion pour améliorer l'efficacité de l'action publique locale. » Alors, beaucoup de choses, on ne va pas y revenir ici. Vous avez tout sur évidemment, cities.newstank.fr, le projet de loi, les essentiels, les enjeux en termes de mixité sociale, je vais y revenir, ce que contient le titre 1, le titre 2 et bien d'autres. Mais bon, parmi les principales mesures du texte, la pérennisation de la loi SRU, en s'adaptant aux spécificités locales, la décentralisation des routes nationales sur une base volontaire, le développement des petites lignes ferroviaires, le renforcement du rôle des élus dans la gouvernance des ARS, la création d'un nouveau champ de compétences pour les départements sur l'habitat inclusif, qui est un enjeu immense au regard de la transition démographique à laquelle nous sommes confrontés, la recentralisation du RSA, le partage des données entre administrations et développement du modèle France Service, accélération de la revitalisation des territoires avec des nouveaux outils pour récupérer les biens sans mettre, pour renforcer les opérations de revitalisation des territoires ou pour lutter contre la disparition des chemins ruraux, le renforcement de l'État local. Et Jacqueline Gouraud, d'ailleurs, dit cette phrase, « Nous confierons au préfet le rôle de délégué territorial pour les grandes agences nationales comme l'ADEME, l'OFB, alors sur le modèle de ce que nous avions fait pour l'ANCT. » Alors, plus précisément, peut-être un petit zoom sur la loi 3DS avec deux éléments. Tout d'abord, mixité sociale. La loi 3DS rend l'article 55 de la loi SRU permanent, nous dit Emmanuel Wargon. Donc c'est un dispositif, on rappelle d'ailleurs que la loi SRU a permis la construction d'environ la moitié des logements sociaux, soit 900 000 construits dans les communes qui en manquaient. C'est une loi importante. Donc dans le cadre de la loi 3DS, l'échéance de 2025 concernant l'article 25 de la loi SRU est supprimée pour rendre l'obligation de construction de logements sociaux permanente. Il est prévu désormais que le rythme de rattrapage par période triennale, c'est ce qu'on appelle les CMS, les contrats de mixité sociale, c'est nouveau, se fasse sur une base triennale. Et en une phrase, ça veut dire quoi ? C'est qu'il est prévu désormais que le rythme de rattrapage par période triennale est d'un tiers de l'écart. Donc on n'est plus sanctionné si on n'atteint pas les 25%, on est sanctionné si dans le cadre de la signature du CMS, on ne rattrape pas au moins un tiers de l'écart sur les 3 ans. Donc il est possible de ramener ce rythme à un quart si la commune signe un CMS. Alors selon Emmanuel Wargon, avec cette loi, le gouvernement continue la politique menée depuis le début du quinquennat par une main tendue aux élus locaux et un partenariat stratégique. Alors, élus locaux, partenariat stratégique, le point de vue des parlementaires. Bruno Ketel, qui était l'un des rapporteurs, belle interview avec beaucoup de fonds, beaucoup d'éléments. Il nous dit « changer la philosophie de la gouvernance territoriale ». En résumé, pour lui, il s'agit d'une boîte à outils pour changer la philosophie de la gouvernance territoriale. territoriales. Les dispositions adoptées ont permis le règlement d'un certain nombre de sujets liés à la loi NOTRe, MAPTAM. Il nous dit aussi qu'il ne s'agit pas, avec ce texte, de provoquer un grand soir de la décentralisation. Le texte est conforme à la volonté du président de la République. C'est l'aboutissement d'un long travail. Il revient, hein. Il y a beaucoup de questions. Les principales avancées, la vision de la décentralisation que nous avons souhaitée, l'enjeu du ZAN, notamment les délais pour la transcription de l'objectif zéro artificialisation nette dans les documents d'urbanisme. Pas seulement. Comment qualifierait-il lui-même la loi 3DS, hein, au terme du parcours législatif ? Et il revient sur le CEREMA. Il nous dit, concernant l'ADEME, il s'agit d'un rétablissement à l'échelon local des prérogatives de la puissance publique en lien avec les préfets de région qui en deviennent délégués territoriaux pour mettre en adéquation les moyens de l'ADEME avec les politiques publiques territoriales. Mais pour le CEREMA, c'est la même philosophie. Nous avons souhaité en faire des acteurs partenaires et non pas des acteurs autonomes. C'est à retrouver sur Newstank Cities. Loi 3DS et beaucoup d'actualités au niveau territorial. Bordeaux Métropole, trois axes du schéma de développement économique. Poursuivre les actions en faveur de l'emploi, accompagner les transitions et favoriser l'économie de la transition, rechercher le rééquilibrage économique des territoires. Ces trois axes sont déclinés en 7 chantiers, hein, représentant 22 fiches actions et 300 actions opérationnelles au total pour un territoire de 814 000 habitants comportant près de 80 000 entreprises d'une très grande diversité. Tout ça, c'est à retrouver évidemment sur Newstank Bordeaux, mais aussi Lyon, qui n'est pas en reste, avec cette interview de Grégory et Régis Fouque, qui dirigent Promoval. Les cartes ont été totalement rebattues lorsqu'il nous parle de Lyon et de la métropole. Avec le nouvel exécutif lyonnais élu en juin, mais les personnels opérationnels dans les services techniques sont toujours présents. Ce sont principalement eux qui permettent au dossier d'avancer. Il nous a fallu entrer en connexion avec les nouveaux élus et leur faire connaître nos métiers dont ils avaient une mauvaise appréhension. La crainte nous a gagné. 18 mois plus tard, nous constatons que les choses sont beaucoup moins catégoriques que ce que l'on avait imaginé. Alors, le promoteur réalise la majorité de ses opérations tertiaires résidentielles dans la région lyonnaise. Concernant la production de logements neuf, les élus de la métropole ont pris le pouls de la production. Voilà, franchement, c'est une interview pour tous ceux qui s'intéressent au territoire lyonnais, à la métropole, mais pas seulement. Avec là le regard de promoteurs engagés, on rappelle, hein, la foncière BRS adossée à Promoval, hein, qui sont véritablement engagés dans des logiques qui s'insèrent totalement dans les politiques publiques, c'est à retrouver sur Newstank Cities. Bordeaux-Montpellier, maintenant, après Bordeaux et Lyon, avec Montpellier Métropole et la programmation de 103 lots pour construire 8560 logements d'ici à 2023. Zonage, cartographie, c'est les objectifs de programmation dévoilés par Michael Delafosse, maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole, lors des premières assises du territoire qui ont réuni 500 entrepreneurs, acteurs et professionnels de l'immobilier du territoire montpelliérain. C'est à retrouver sur Newstank Cities dans le détail. On continue avec cette interview sur laquelle je vous invite à passer du temps et à vous concentrer. Chaque mot vaut sa pertinence. Sophie Pantel, présidente de l'ANIL, présidente depuis décembre 2021, et elle revient sur le ZAN. L'anticipation du ZAN est catastrophique car on bascule d'un extrême à l'autre. Elle répond aux questions de l'équipe de Newstank Cities. Elle revient sur dans quel état d'esprit elle travaille depuis qu'elle a été élue présidente de la NIL. Je rappelle, hein, la NIL qui est l'Agence Nationale pour l'Information sur le Logement. Elle nous rappelle que 85 départements sont dépourvus d'une ADIL. Quelles sont vos priorités en 2022 ? Elle rappelle aussi son action en tant que présidente du conseil départemental de Lozère et la thématique du logement. Et elle rappelle aussi ce terme fort, notamment lorsqu'on aborde la différenciation territoriale pour ce qui est de la Lozère. Elle nous parle au PH aussi d'optimisation du logement intermédiaire. On remercie encore et on salue Sophie Pantel, et c'est à retrouver sur Newstank Cities. Zan, toujours avec ce webinaire foncier en débat, séminaire Zan et urbanisation en France et en Europe, les 9 et 10 mars 2022. Donc c'est l'association foncier en débat hein, qui organise un webinaire dédié aux Zan et aux pratiques d'urbanisation en France et en Europe, en visioconférence et en présentiel à la cité Descartes, à Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne, les 9 et 10 mars, avec le réseau des jeunes chercheurs du foncier, le Lab Urbain et l'université Gustave Eiffel. Donc c'est le 9 et 10 mars, l'ensemble des éléments pour l'inscription est sur Newstank Cities. Alors, les intervenants, Philippe Schmitt, que l'on salue, Urba Demain, Alexandra Coquière, Institut Paris Région, François de Alfasquez, Ville Ouverte, et l'équipe du CEREMA, évidemment. Zan, énergie, transition, les fédés des EPL. Alors, un point et beaucoup d'informations qui émanent de cette présentation d'Alain Leboeuf, hein, qui est président du conseil départemental de la Vendée et président de la commission transition énergétique de la Fédération des entreprises publiques locales, le 9 février. Et il revient sur l'engagement énergétique des EPL. Nos entreprises n'ont pas fini d'innover, nous dit-il. Nous sommes au début d'une grande transition. 607 entreprises publiques locales engagées dans la transition énergétique. Parmi les 1355 EPL, hein, dans lesquels on retrouve SEM, SPL, SEMOP en France, 607 sont directement engagées dans la transition énergétique. 128 d'entre elles ont comme activité principale l'énergie. Alors, ça va de la production à la distribution d'énergie durable, déploiement de réseaux de stations bio-GNV, rénovation énergétique des bâtiments. 479 autres EPL ont une activité secondaire ou indirecte hein, liée à la transition énergétique. Tout ça, c'est à retrouver aussi sur Newstank et c'est assez important. Info qu'il ne fallait pas louper aussi cette semaine, il y en a deux. Une dans le cadre des politiques publiques, l'autre privée. Zonage A, B et C, reclassement de 57 communes situées dans 7 départements. Donc il y a 34 communes dans le département de Haute-Savoie reclassées en B1. 18 communes dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Calvados, de Corse-du-Sud, du Pas-de-Calais, de Savoie et du Var reclassées en B1 et 5 communes du département de Haute-Savoie reclassées en A. Voilà, c'est la répartition là du reclassement de 57 communes dans 7 départements. Ça change beaucoup de choses hein, par rapport à un certain nombre d'aides et de dispositifs, hein, que ce soit le Pinel. Et les communes de Haute-Savoie en reclassement B1, communes hors Haute-Savoie reclassées en B1, sont disponibles sur un fichier téléchargeable, exploitable, mis en forme par les équipes de Newstank Cities. Et on finit avec cette info, DICAD et ce projet de 60 000 m² bas carbone et réversible à Aubervilliers. Alors, la présentation est faite par Anne Demian, qui est architecte, et Emmanuel Baboulin, qui est architecte aussi, sur ce projet. Le projet Inandi de 60 000 m² bas carbone à Aubervilliers est une opération réversible de bureaux et de logements. Elle acte une nouvelle approche du développement de la ville. Elle retrouve à la fois sa capacité à s'inscrire en continuité avec son passé et dans un temps très long et à se projeter dans un renouvellement attentif à ses dimensions esthétiques, sociales et environnementales, déclare Anne Demian. Le détail du projet, 200 millions d'euros d'investissement, hein. La livraison est prévue en 2026, le PC est déposé le 14 février, le détail sur la réversibilité, etc., tout ça, c'est au travers de l'interview qui est à retrouver sur Newstank. Anne Demian, Emmanuel Baboulin, on vous remercie du fond du cœur. C'est fini pour Newstank Cities, le podcast, je vous dis à la semaine prochaine et à très 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 vite. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations et surtout celles que je n'ai pas citées en demandant un abonnement découverte sur cities.newstank.fr. Merci à toutes et à tous.